Vous écoutez un fil 7h à Paris, 6h à Libreville et 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Léa Boutin-Rivière pour le journal. Bonjour Léa.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Avant même la fin du dépouillement, Daniel Noboa savoure sa victoire à la présidentielle en Équateur.
94% des bulletins de vote ont été dépouillés. Une tendance claire se dégage, elle est même irréversible selon le conseil électoral. Le président sortant a récolté 56% des suffrages exprimés. Sa rivale Luisa González rejette ses résultats. Victoire aussi pour Brice Oligui Nguema au Gabon, si l'on en croit les résultats provisoires. Le chef de la transition n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a remporté la présidentielle avec plus de 90% des voix. On parlera aussi dans ce journal des timides négociations qui ont repris ce week-end entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis où démarre aujourd'hui le procès de Meta, accusé de pratiques anticoncurrentielles.
Les résultats sont sans appel. En Équateur, le sortant Daniel Noboa, gagnant de la présidentielle.
Mais l'autorité électorale l'a reconnu vainqueur, car même si 94% seulement des bulletins ont été dépouillés, son avance est irréversible, selon le Conseil. Le président controversé a récolté 56% des suffrages exprimés, contre 44% pour sa rivale de gauche, Luisa González. Immédiatement, Daniel Noboa s'est félicité d'une victoire historique. Sa concurrente n'était évidemment pas du même avis. Elle a déjà prévenu qu'elle ne reconnaissait pas ses résultats. Luisa González souhaite un recomptage des voix. Correspondance en Équateur avec Eric Sanson.
La candidate socialiste Luisa González n'a pas attendu que la présidente du Conseil national électoral reconnaisse la victoire du président sortant pour demander que soient recomptés tous les bulletins. Elle conteste les résultats officiels.
Je veux être très clair et empathique. La révolution citoyenne a toujours reconnu la défaite lors de précédentes élections, lorsque les chiffres et les sondages le démontraient ainsi. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas les résultats.
Il faut dire que cette défaite par 11 points d'écart a surpris après un premier tour durant lequel Luisa González avait pratiquement fait jeu égal avec le président Daniel Noboa. Ce dernier, durant la campagne, a dramatisé le débat en accusant son adversaire de vouloir mettre fin à la dollarisation, plébiscitée par la population, et mis en avant son action résolue contre les cartels et les gangs qui ensanglantent le pays.
L'Équateur veut être différent. L'Équateur ne veut pas retourner au passé, mais aller de l'avant. Les Équatoriens veulent une vie meilleure et ont choisi un projet pour obtenir cette vie meilleure qu'ils recherchent tant.
Noboa souhaite réformer la Constitution pour permettre le retour de bases étrangères et a demandé l'aide de la communauté internationale contre les trafiquants de drogue. Eric Sanson, Quito, RFI.
Et succès aussi pour Brice Oligui Nguema au Gabon, 20 mois après sa prise de pouvoir. Le chef de la transition a transformé l'essai puisqu'il a remporté la présidentielle d'hier et décroche donc un mandat de 7 ans. C'est en tout cas ce que disent les résultats provisoires publiés par le ministère de l'Intérieur. 70% de participation et plus de 90% des suffrages exprimés. Ces chiffres doivent encore être confirmés, mais il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Le rassemblement des bâtisseurs, mouvement de Brice Oligui Nguema, a dominé la campagne, tout comme le général domine la scène politique depuis bientôt 2 ans, François Mazet.
À son intronisation le 4 septembre 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema promet de rendre le pouvoir aux civils. Très rapidement, néanmoins, ses intentions ne font guère de doute. La charte de transition exclut des élections tous ceux qui la conduisent, à l'exception de son chef. Le dialogue national amène à une constitution hyper-présidentialiste et à des conditions d'éligibilité très strictes qui écartent plusieurs ambitieux. Un texte taillé sur mesure, disent ces critiques, qui voient au fil des mois ressurgir les pratiques du régime des culte de la personnalité jusqu'à la déification et recyclage des rouages de l'ancien pouvoir dans l'administration, la campagne et l'appareil électoral. Brice Clotaire Oligui Nguema rallie tout le spectre politique, ex-pédégiste, grande figure de l'opposition et conscience de la société civile se retrouve sous son étendard. Le rassemblement des bâtisseurs et ses 110 organisations écrase la campagne, parvient à mobiliser largement et à inscrire nombre de nouveaux électeurs. Son objectif, la victoire cash, le score à la soviétique, est aujourd'hui atteint. François-Mazet, Libreville, RFI.
Et les sept autres candidats au scrutin doivent, eux, se satisfaire de scores bien plus bas.
Tout juste 3% pour le deuxième, Alain-Claude Bilibinzé. Les six restants atteignent à peine 1%. Ces candidats malheureux ont 8 jours pour déposer un éventuel recours. RFI, il est 9h05 à Téhéran, en Iran, où un vent d'espoir souffle depuis une première session de négociation entre l'Iran donc et les États-Unis. Les deux pays ont échangé sous une médiation d'Oman ce week-end et ils ont annoncé que les discussions se poursuivraient de manière indirecte dans les mois à venir. Pour l'instant, ce réchauffement semble encore fragile. Téhéran prévient que le nucléaire sera le seul sujet abordé, tandis que Washington menace. Si les discussions échouent, eh bien les États-Unis n'hésiteront pas à frapper fort. Il n'empêche, Siav Ghazi, la population accueille avec optimisme ce léger redout.
Les déclarations des responsables iraniens et américains qui ont parlé de climat constructif et positif lors de la rencontre d'Oman ont en effet eu un effet immédiat sur les marchés en Iran, comme l'affirme Reza, un commerçant de 65 ans.
Lorsqu'une simple séance de négociation peut faire baisser la valeur du dollar face au rial iranien et la valeur de l'or d'environ 20% et faire passer la bourse dans le vert alors qu'elle était dans le rouge, c'est un signe d'espoir, un signe qui peut permettre d'améliorer la situation économique.
En effet, avant la réunion de samedi, beaucoup craignaient un échec des négociations et un conflit ouvert entre l'Iran et les États-Unis. Le président américain Donald Trump avait en effet promis l'enfer en cas d'échec des négociations et de bombardement des sites nucléaires iraniens. Malgré ce vent d'espoir, les autorités ont appelé la population à la prudence en affirmant notamment que les négociations avec les États-Unis pouvaient prendre du temps. Les deux pays ont en effet rompu leurs relations il y a plus de 45 ans et il sera difficile de suspendre les nombreuses sanctions américaines contre Téhéran, mais aussi trouver une formule pour donner des garanties sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Siav Ghazi, Téhéran, RFI.
Dans la bande de Gaza, frappe importante contre l'un des seuls hôpitaux encore en service.
L'hôpital Al-Arli, situé à Gazaville, Israël y a mené une opération hier disant lutter contre une cellule de commandement du Hamas. Un enfant est mort après cette frappe. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le signale. Le bombardement a causé l'interruption des soins dont cet enfant avait besoin. Les journalistes, eux aussi, sont victimes de ces frappes israéliennes. En 18 mois, les bombardements sur l'enclave ont tué près de 200 journalistes palestiniens. Les principales organisations de défense des journalistes et les sociétés des journalistes de nombreux médias, dont RFI, co-signent une tribune de soutien à nos confrères palestiniens. La société des journalistes de RFI soutient l'appel à laisser entrer immédiatement les journalistes internationaux à Gaza et dénonce le refus persistant des autorités israéliennes de laisser les journalistes étrangers couvrir le conflit à partir de l'enclave. La tribune est à retrouver sur notre site www.rfi.fr.
Nouvelle difficulté pour le groupe Meta aux États-Unis.
Après avoir été passé au crible concernant la protection des données l'an dernier, l'entreprise fondée par Mark Zuckerberg comparaît aujourd'hui devant le tribunal de Washington. En cause cette fois des accusations de pratiques anticoncurrentielles, car dès le début des années 2010, Meta a acquis la plateforme de partage de photos Instagram et l'application de messagerie instantanée WhatsApp, Lia Roisin-Pillot.
En 2012, Instagram était une jeune application mobile et surtout une possible concurrente pour Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook et patron de Meta. Il a donc racheté ce réseau social et reproduit la même logique 2 ans plus tard avec l'acquisition de WhatsApp. Aujourd'hui, Instagram compte 2 milliards d'utilisateurs et WhatsApp presque 3 milliards. Un risque de monopole selon la FTC, l'autorité américaine de la concurrence. C'est donc un procès de 8 semaines minimum qui débute et les enjeux sont gros. Si la FTC l'emporte, Meta devra peut-être abandonner les deux plateformes. Pour Zuckerberg, c'est la désillusion. En janvier dernier, le milliardaire a soutenu Donald Trump à la présidentielle. Il espérait ainsi un assouplissement du droit à la concurrence. Depuis, il s'est rendu plusieurs fois à Mar-a-Lago, la résidence du dirigeant américain, mais aussi à la Maison Blanche. Il venait y plaider l'arrêt des poursuites contre son entreprise, mais sans succès.
Les audiences se poursuivront pendant 5 semaines. Lui aussi est jugé, l'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol, devant la justice pénale. Il a comparu il y a quelques heures devant le tribunal de Séoul, où il devra, pendant les prochaines semaines, se défendre des accusations d'insurrection qui pèsent contre lui. Yoon Suk-yeol encourt la prison à vie, voire la peine de mort. En France, un fidèle parmi les fidèles du macronisme quitte les couloirs du pouvoir. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, en poste depuis 2017, doit rendre son tablier cette semaine, après des mois de rumeurs insistantes en ce sens. Dans la foulée, le haut fonctionnaire Emmanuel Moulin devrait prendre le relais et diriger le cabinet de conseiller du président. Le point avec Charlotte Urien-Thomacar.
Il deviendra au mois de juin secrétaire général adjoint de la Société Générale après avoir passé plus de 8 ans auprès du chef de l'État. Sa proximité avec Emmanuel Macron et sa force de travail lui avaient permis de s'imposer comme un rouage essentiel au fonctionnement de la machine étatique. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, les rumeurs allaient bon train sur son possible départ, à chaque fois retardé. C'est donc chose faite, le vice-président, comme il est souvent surnommé, rejoindra le secteur privé. Une longévité au poste de secrétaire général jugée exceptionnelle et des passé uniquement par Jean-Louis Bianco sous François Mitterrand. Pour lui succéder, Emmanuel Moulin prendra les rênes du secrétariat général. Il a occupé des postes clés, notamment directeur de cabinet de Christine Lagarde et de Bruno Le Maire, ainsi que directeur général du Trésor. Plus récemment, il était le directeur de cabinet du Premier ministre Gabriel Attal, un changement qui intervient à un moment stratégique, alors que le chef de l'État entame la dernière phase de son mandat.
Charlotte Urien-Thomaca du service politique de RFI.
Et puis, il était le dernier représentant de l'âge d'or de la littérature sud-américaine.
Mario Vargas Llosa s'est éteint cette nuit à Lima. Il avait 89 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé il y a quelques heures. Le prix Nobel de littérature 2010 est connu pour plusieurs de ses romans. La tentation de l'impossible notamment, mais aussi La ville et les chiens. Sauf que l'hispano-péruvien n'était pas juste un homme de lettres. Martin Chabal, Mario Vargas Llosa, c'était aussi un homme politique influent avec des positions tranchées et parfois controversées.
L'auteur de Conversations à la cathédrale ou de La ville et les chiens a conquis les lecteurs du monde entier en mêlant le témoignage, le documentaire et la créativité dans ses romans. C'était un grand admirateur des écrivains français comme Flaubert ou Sartre et son œuvre lui a permis d'être élu à l'Académie française en 2021. Au Pérou, il est candidat à l'élection présidentielle de 1990 où il échoue face à Alberto Fujimori, une défaite qui le marque beaucoup. Il a d'ailleurs une image très contrastée dans son pays natal. Il est le seul prix Nobel péruvien et a raconté une grande facette du pays, mais ses idées politiques récentes divisent. Soutien de Bolsonaro au Brésil, il se range aussi derrière José Antonio Kast au Chili en 2021, alors qu'il se revendique comme héritier de la dictature de Pinochet. Il est souvent critiqué pour s'être expatrié en Espagne et regardé le Pérou avec mépris. Sa phrase au début du roman Conversation à la cathédrale « À quel moment le Pérou s'est foutu en l'air » décrit bien sa vision pessimiste du pays que beaucoup de Péruviens lui reprochaient. Martin Chabal, Lima, RFI.
Et restez avec nous, on reviendra dans nos prochaines éditions sur le décès de Mario Vargas Llosa et sur son parcours.
Merci Léa Boutin-Rivière, votre journal à réécouter comme tous les autres sur notre application RFI Pure Radio, 7h13 à Paris. Et c'est le début de 3 heures d'information que l'on va passer ensemble sur RFI avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, toute la rédaction à Paris et dans le monde mobilisée pour vous informer. Ce matin, on va beaucoup parler bien sûr de cette actualité électorale en Équateur mais aussi au Gabon où selon les résultats provisoires le chef de la transition Brice Clotaire Oligui-Nguema a remporté la présidentielle. On entendra des Gabonais ravis ce matin.
Très belle journée, vraiment on est satisfait. Un grand changement par rapport aux élections passées, c'est que les résultats sont proclamés en plein jour.
Reportage de notre envoyé spécial au Gabon, François Mazet, que nous appellerons à 9h, et les résultats de cette présidentielle, on y revient bien sûr dans toutes nos éditions, mais aussi dans Appel sur l'actualité juste après RFI Matin, 9h10, heure de Libreville. Juan Gomez attend vos réactions. RFI Matin également au programme. L'Ukraine au lendemain de la frappe russe meurtrière à Soumy, nous appellerons Kiev dans 1 heure. On va parler également de la situation dans la bande de Gaza et l'hôpital Al-Arli, l'un des derniers encore actifs de l'enclave palestinienne, pris pour cible par Israël ce dimanche. Récit glaçant sur notre antenne ce matin.
C'était indescriptible, le jour du jugement dernier. Les blessés grimaçaient de douleur, on les transportait sur des lits à bout de bras. C'était terrible.
Reportage à écouter à 9h ce matin. On revient aussi sur la guerre commerciale lancée par Donald Trump. On vous explique tout à 8h15 dans Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest. On parle également de la mort d'un monument de la littérature, Mario Vargas Llosa, auteur péruvien, prix Nobel. On en parlait à l'instant dans le journal. On y reviendra dans toutes nos éditions. RFI Matin, c'est aussi la presse, le sport et le foot. Vous saurez tout avec Antoine Grenier dans nos journaux dédié ce matin. Le premier, c'est dans une demi-heure. Belle journée, bon réveil à vous sur RFI. La guerre commerciale, je vous le disais, lancée par Washington, toujours en cours, alors que Pékin appelait encore hier les États-Unis à annuler complètement les droits de douane réciproques. Rien n'est impossible, hein, selon Pékin, alors que Washington semblait s'adoucir la semaine dernière avec l'annonce d'exemption sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs en tête, ainsi que sur les semi-conducteurs. La Chine est concernée, même si, depuis, le président américain nuance, et pas qu'un peu. Aucun pays n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine. L'avertissement date d'hier. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Envoyée spéciale permanente d'RFI à Pékin, Cléa, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est à peu près à ce stade ?
Oui, parce que c'est pas facile à suivre, effectivement, avec ces nombreux revirements. Alors, vendredi, Donald Trump avait cédé à la pression d'entreprises comme Apple, dont la production dépend largement de la Chine. Alors, il annonçait que les ordinateurs et les smartphones seraient provisoirement exclus des nouvelles surtaxes. Et il faut savoir que sans cette exemption, les prix des iPhones auraient pu presque doubler aux États-Unis, ce qui aurait provoqué un choc économique et politique majeur. Mais ce dimanche, changement de cap à nouveau. Ces produits ne seront pas totalement épargnés. Ils écopent finalement d'un tarif de 20%, présenté comme temporaire. Et de nouvelles taxes, cette fois motivées par des raisons de sécurité nationale, sont attendues sous peu. Elles concerneraient aussi les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. On est donc passé d'un bras de fer frontal à une approche plus nuancée, influencée par les réactions des marchés et des milieux économiques.
Et alors, Cléa, comment la Chine réagit-elle ?
Eh bien, la Chine demande aux États-Unis d'annuler totalement ce qu'elle qualifie de mauvaises pratiques douanières. Elle appelle Washington à faire marche arrière et à revenir à une relation basée sur le respect mutuel. Et samedi, Pékin mettait déjà en garde contre les conséquences de ces surtaxes pour des pays les plus vulnérables, évoquant même un risque de crise humanitaire. La Chine reconnaît cependant le petit geste vis-à-vis des smartphones et ordinateurs, mais elle reste prudente et elle dit en évaluer l'impact. Et pour l'anecdote, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié hier soir sur Instagram, qui est inaccessible en Chine, une vidéo d'archives de JF Kennedy qui, dans un discours, disait en 61 que les États-Unis n'étaient pas omnipotents et le ministère d'ajouter un peu d'humilité ne ferait pas de mal, même pour une superpuissance.
Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre désormais ?
Alors à court terme, l'escalade commerciale pourrait bien continuer. Donald Trump a averti qu'aucun pays n'était tiré d'affaire face à son offensive douanière, surtout pas la Chine, qu'il a de nouveau attaqué hier. Et Pékin a renforcé ses propres taxes, les portant à 125% sur les produits américains, mais mise aussi sur la diplomatie régionale. Xi Jinping, qui entame aujourd'hui une tournée en Asie du Sud-Est, tente de consolider les relations commerciales avec ses voisins asiatiques pour apparaître comme un partenaire fiable face à une Amérique de plus en plus imprévisible. Et dans ce contexte tendu, les marchés restent fébriles, l'or grimpe, les actions vacillent, et malgré tout, eh bien Donald Trump continue d'afficher son optimisme. Selon lui, sa stratégie fonctionne. Il se dit même confiant sur la possibilité d'un accord à venir avec la Chine.
Cléa Broadhurst, envoyée spéciale permanente d'RFI à Pékin. Donald Trump, confiant aussi sur sa capacité à régler la guerre en Ukraine. S'il n'est pas parvenu à imposer la paix en 24 heures, comme il l'avait promis lors de sa campagne, le président américain a relancé des pourparlers avec Moscou sans effet pour l'heure. En attendant, la guerre en Ukraine fait rage. Violente, horrible, c'est le mot employé par Donald Trump pour qualifier la frappe russe d'hier sur la ville ukrainienne de Soumy, qui a fait 34 morts. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin, justement, pour parler de la Russie, mais aussi de l'Ukraine, invité exceptionnel sur RFI, l'opposant et ancien prisonnier russe, Vladimir Kara-Murza.
Oui, il n'hésite pas à qualifier Vladimir Poutine d'usurpateur et d'assassin. Vladimir Kara-Murza est vice-président de la Fondation Russie Libre. Il a essayé échappé à deux tentatives d'empoisonnement en 2015 et 2017. En avril 2023, la justice russe l'a condamné à 25 ans de prison pour haute trahison. Son crime, avoir dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine. Après 2 ans et 3 mois en détention, il est libéré en août 2024 lors d'un échange de prisonniers. Aujourd'hui, il vit en exil et il appelle à un cessez-le-feu en Ukraine et à la libération de tous les prisonniers de guerre et prisonniers politiques. Il espère, bien sûr, une Russie démocratique et dénonce le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vladimir Karamurza était à Paris en toute fin de semaine dernière. Il a accordé cet entretien à RFI avant de repartir.
Rendez-vous donc dans une heure pour entendre cet entretien. À tout à l'heure, Arnaud. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 230 millions de femmes dans le monde ont déjà subi des mutilations génitales. Et en France, au moins 139 000 femmes sont concernées. La France, où dans un souci de prévention, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés intervient dans les écoles à la demande des infirmières scolaires. C'est le cas de ce collège de Seine-Saint-Denis en région parisienne où s'est rendue Amélie Beaucourt. Reportage.
Est-ce que vous savez de quoi on parle d'excision.
Cet après-midi-là, devant une classe d'élèves de 3e, Alice Atandiaï prend la place du professeur. Elle est directrice régionale de la Fédération GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
Est-ce que vous savez où ça se pratique, l'excision ?
Au Sénégal.
Au Mali.
En Inde.
En Égypte. Non, pas en Tunisie.
Même si ces élèves qui ont 13, 14 ans peuvent se dire qu'ils sont complètement éloignés de cela, ils peuvent se dire mes origines, ma mère, mes tantes, ma grand-mère, est-elle concernée ? Ou est-ce qu'elle sait qu'elle est concernée ? Et comment moi, je peux y échapper ? Ou est-ce que j'y ai échappé ?
Ok, ça c'est la vulve, donc l'appareil génital de la femme. Et on parle donc du clitoris. Le gland du clitoris, c'est celui-ci qui est coupé lorsqu'on parle de l'excision.
Un jeu de questions-réponses et pour tout support pédagogique, une peluche qu'elle fait passer de table en table.
Alors, c'est un doudou tout doux, rose, où on voit donc le clitoris dans son intégralité, les lèvres. Mais quand tu le regardes, tu ne vas pas détourner des yeux parce qu'il est assez flashy, il est assez ludique. C'est moins répulsif pour des jeunes, mais même aussi pour les moins jeunes, de l'avoir en main pour se rendre compte de quoi on parle et de quelle partie dont on parle au niveau de l'appareil génital.
Dans la salle, beaucoup d'interrogations, du dégoût, quelques réactions choquées, voire révoltées. La plupart d'entre eux n'avaient pas entendu parler de l'excision. Émilie fait partie des rares exceptions.
Quand j'ai appris que quelque chose comme l'excision existait, je me suis dit, ça change pas d'habitude, quoi. De favoriser l'homme plutôt que la femme, de considérer que c'est la femme qui doit s'abstenir de faire certaines choses comparées à l'homme. Enfin, voilà.
Comment t'en as entendu parler ?
Sur TikTok, c'est une femme qui disait que la pire douleur qu'elle avait, c'était d'avoir été excisée. Et du coup, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai voulu aller faire mes recherches et j'ai trouvé.
Bonjour, je me présente, Sally Diop. Je vais vous parler de mon excision.
Sur les réseaux sociaux, elles sont de plus en plus nombreuses à témoigner face caméra et avec beaucoup de détails. Une nouvelle forme de sensibilisation bienvenue pour Alice Atandiaï.
C'est assez récent, je trouve que c'est une très très bonne chose. Et c'est ça l'idée en fait de la sensibilisation, de la prévention, c'est casser les barrières. À partir du moment où ça permet de faire de la prévention et de sauver des petites filles, ben on y va.
En France, une femme sur deux qui a été excisée vit en région parisienne et c'est précisément ici, en Seine-Saint-Denis, qu'elles sont le plus à risque.
Reportage d'Amélie Beaucourt, RFI dans un peu plus de 5 minutes, l'information africaine. Mais d'abord, c'est notre question d'environnement. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Ce matin, vous nous parlez de cette étude réalisée en France par 3 ONG et qui pointe la désinformation climatique à la télé et à la radio. Alors cette question ce matin, Florent, pourquoi et comment les climato-sceptiques prospèrent dans les médias ?
Un chiffre, Andréane, 128 cas de désinformation climatique ont été détectés en 3 mois. À la télé et à la radio en France, qui fait quand même une dizaine par semaine. Et le grand champion, c'est Sud Radio qui en cumule un tiers en invitant régulièrement des négationnistes du climat, comme ce physicien à la retraite, François Gervais, qui nie le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique.
Savez-vous combien on émet de CO2 en respirant ? Si tant est qu'on ait encore le droit de respirer.
De respirer, oui.
Pendant une vie, on émet 25 tonnes de CO2 en expirant.
Oui, c'est intéressant à rappeler ça.
Non, c'est pas intéressant, c'est juste absurde.
La diffusion de fausses informations sur le climat, c'est un problème démocratique.
Oui, c'est ce que nous dit Jean Sauvignon, chargé d'études à Cota Climat, l'une des ONG qui ont fait cette étude.
Le changement climatique, sa gravité et son origine humaine, bah ça malheureusement, ça relève des faits, ça relève pas des opinions. Donc que les angles éditoriaux des médias parlent plus à leur public, c'est une chose. Qu'on désinforme pour parler à un public, c'en est une autre. Et là, pour le coup, ça contrevient massivement au droit à l'information.
Alors, il y a des invités climato-sceptiques, mais aussi des animateurs.
Et mention spéciale, Andréane, à Pascal Praud, la star de la chaîne de télé CNews.
Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible.
Et c'est pas un hasard, hein, Florence, les deux plus mauvais élèves sont Sud Radio et CNews.
Non, Sud Radio est régulièrement accusé de diffuser des propos complotistes sur le Covid ou le climat. Et CNews, c'est la chaîne de télé de Vincent Bolloré à l'agenda politique assumé, favoriser l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Jean Sauvignon de l'ONG Cota Climat.
C'est les deux chaînes et radios qui ont été condamnées l'an dernier. Sud Radio à 2 mises en garde et CNews à une sanction financière pour des informations climatiques, ce qui était quand même une première mondiale. C'est quand même une stratégie, notamment d'extrême droite, qui est assez théorisée. Plutôt que de s'attaquer au changement climatique, on s'attaque à l'entièreté de ses messagers.
Et démonstration sur CNews, toujours avec Pascal Praud, avec en bonus les insultes de la journaliste Elisabeth Lévy contre la militante écologiste Claire Nouvian.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous trouvez ça normal ?
Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer.
C'est vous qui êtes dingue.
Non, mais arrêtez aussi.
Non, mais ça suffit.
Il y a la désinformation et puis il y a aussi le manque d'information.
Alors que l'environnement est le deuxième sujet qui intéresse les Français dans les médias après la santé, eh bien seulement, dans cette étude réalisée sur 3 mois, seulement 2% du temps d'antenne a été consacré à la crise climatique. Jean Sauvignon.
C'est grave parce que moins on est informé, plus on est perméable par la force des choses à la désinformation. Quand on entend très peu de choses et très peu de discours scientifiques sur le sujet, on est beaucoup plus facilement désinformé qu'autre chose.
Dans cette étude, Florent, RFI, en revanche, très largement au-dessus de la moyenne.
Hein. Ouais, allez, on l'ose, le cocorico, RFI est numéro 1, très loin devant. Les sujets sur l'environnement occupent 6% des journaux et des tranches d'infos. D'ailleurs, on revient dans 2 heures pour entretenir la moyenne.
Et merci à vous de vous en charger, Florent Guignard. Merci en direct pour notre question d'environnement ce matin, RFI. Dans quelques minutes, le retour de l'information, mais d'abord un petit passage par notre playlist du mois de Chi. Ce matin, avec le titre Denial is a River.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Dolce?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019, nice clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023.
La star de Chi et le titre Denial is a River sur RFI ce matin. C'est sur notre playlist ce mois-ci, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site RFI.fr. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
I don't
think. Wanna talk about it?
Fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Hollywood, what can I say?
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
conseils pour accompagner les parents qui vieillissent.
Demain,
comment lutter contre le harcèlement et la haine, une émotion destructrice.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Marjorie Bertin.
Youssoundour vient de sortir Éclairer le monde, un album envoûtant et apaisant. Il sera à Paris avec le Super Étoile de Dakar pour un grand concert à l'Olympia. Et en attendant, le roi du Mbalar sera notre invité exceptionnel.
Sur le Pont des Arts, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.